Sur Aligre FM avec Jean-Marc Gélin.
Eh bien bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Jazzland. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, c'est parfois sur ce plateau, quand on rencontre des musiciens ou des musiciennes, leur musique dit autre chose que la musique. Sous leurs doigts ou avec leur voix, elles parlent d'humanité. Et cette humanité, aujourd'hui, dans Jazzland, elle s'exprime par des chansons finalement intemporelles qui ont jalonné les révolutions dans le monde, des chansons dont les mélodies très fortes sont parvenues à unir des peuples en lutte. Et cette humanité, elle s'exprime aussi dans Jazzland aujourd'hui par un autre trait d'union, celui qui est tiré entre les peuples de cultures et de musiques différentes, entre le jazz et la musique mandingue, pour une même universalité. Cette universalité aujourd'hui, elle s'exprime dans l'histoire, dans la géographie. Pour en parler, on a la chance de recevoir deux pianistes qu'on adore. Le plus italien, le plus français des pianistes italiens, ça, on ne vous l'a jamais dit d'ailleurs, ça, absolument jamais.
Jamais.
Je vais le laisser se présenter, vous venez d'entendre sa voix.
Bonsoir, je m'appelle Giovanni Mirabassi.
Giovanni Mirabassi. Je demande à la technique si on peut avoir un peu plus de son de Giovanni Mirabassi. Et à ma droite, celui qui fait le lien entre la France et le Sénégal, autre pianiste qu'on adore, pareil, je vais laisser dire son nom.
Eh bien, je suis très heureux d'être ici. Bonjour Jean-Marc, je m'appelle Olivier Huttmann et je suis ravi d'être en face de Giovanni Mirabassi.
Vous connaissez bien. Mais en tant que pianiste, vous n'avez jamais joué ensemble. Enfin, vous n'avez pas fait de quatre mains ensemble?
Non, jamais eu l'occasion.
Non, mais c'est rare de faire ça.
Ouais, on s'est connus dans les locaux de Arpège il y a quelques 35 ans. Où moi je faisais la rythmique pour les examens et toi tu étais dans le jury.
Écoute.
Voilà.
Eh bien messieurs, je vous propose qu'on rentre complètement dans le vif du sujet en démarrant avec cet album qui vient de sortir, Pio Avanti, sur le label Jazz Eleven. C'est la suite d'une histoire, on va y revenir juste après, mais je vous propose, on va commencer et on va lancer d'ailleurs le morceau en tapis avec La Butte Rouge. Je ne résiste pas. On peut lancer la musique comme ça en tapis, merci. À l'idée de vous, si Giovanni vous m'autorisez, à dire deux strophes de cette chanson pour que les auditrices et auditeurs comprennent. La Butte Rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpèrent roulèrent dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il pousse du raisin. Qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de pénibles sanglots. êtes bien sur Jazzland et Ligre FM 93.1 avec Giovanni Mirabassi pour la sortie de l'album Più Avanti sur le label Jazz Eleven. Alors, d'emblée, d'abord, je crois que le public avait été marqué en 2001. Ça avait été vraiment une sorte de bombe hein, en 2001, une bombe émotionnelle en 2001, la sortie de Avanti autour des chants révolutionnaires. Ça nous avait vraiment tous bouleversés à l'époque. Vous avez gagné beaucoup de prix, etc. Enfin, ça a marqué a aussi été un marqueur de votre carrière. On en reparlera tout à l'heure. Et là, vous avez une démarche artistique qui est très intéressante. C'est-à-dire que, d'abord, vous auriez pu rééditer cet album, puisque bah, vous avez votre propre label. C'est pas ce que vous avez choisi. Vous n'avez pas choisi non plus d'aller chercher d'autres chants révolutionnaires. Vous n'avez pas choisi de refaire ce répertoire dans un autre format, avec peut-être des chanteurs ou d'autres musiciens. Non, vous avez choisi de refaire quasiment l'intégralité de ce répertoire. Pourquoi ce choix ? Et pourquoi ce moment aussi ?
Alors, beaucoup de bonnes questions. Alors la première, il faut savoir que j'ai fait Avanti chez Sketch, donc je n'ai jamais été propriétaire du master.
Oui, bien sûr.
J'étais artiste. Sketch ayant périclité a été racheté par un label japonais qui s'appelle Atelier Savano, qui a choisi de ne distribuer les disques en physique que au Japon et de ne pas les mettre sur les plateformes. Donc ce disque qui a marqué les esprits, qui a fait quand même des ventes importantes, etc., etc., et qui m'a valu d'apparaître tout à coup sur la carte mondiale des pianistes de jazz, a disparu des bacs 3 ans après la sortie. En ce qui me concerne, ça a été un traumatisme énorme, parce que c'est un disque qui a fait ma carrière, qui a du coup défait la plupart de mes amitiés, qui a... Donc, qui en plus, enfin, pour des raisons de maturité, je dirais, a fait qu'en plus, je n'aimais pas du tout la musique. J'avais eu des problèmes au studio, mais je ne me sentais pas légitime pour dire des choses. Donc, je croyais que c'était moi qui n'arrivais pas à faire sonner le piano, etc. Toutes ces choses qui arrivent aux jeunes, on va dire. Ce disque-là, je n'aurais de toute façon pas pu le rééditer. Donc, d'ailleurs, le producteur japonais ne m'en vend même pas une boîte. Moi, il faut que j'aille à Tokyo, au magasin, acheter les quelques copies qu'il y a à chaque fois que j'y vais, 25 balles pièce, et que je les mette dans ma valise, et comme ça, j'ai quelques aventures à la maison. L'aimabilité...
Je ne vous donnerai pas le mien, je le garde précieusement.
Ça, c'est l'aimabilité de l'industrie discographique. Donc, pendant longtemps... Alors, ce qui est particulier de ce projet, c'est que depuis plus de 20 ans, le disque n'est pas disponible, alors qu'il a vendu quand même des dizaines de milliers d'exemplaires.
Même sur les plateformes ?
Non, même sur les plateformes. Il est au Japon. Point barre. Et néanmoins, le public continue systématiquement à chaque concert à me demander de jouer ce répertoire. Ce qui a eu en plus la chose particulière de m'agacer un petit peu. Parce que...
Mais c'est une question que je voulais vous poser, justement, voilà. Si ce n'est pas lourd à porter, ça. C'est...
Oui, oui, ça l'est. Mais finalement, en 2025, j'ai fait une année assez, on va dire, mouvementée. Donc, je suis allé jouer dans plusieurs continents. Sur plusieurs continents, je suis allé en Amérique latine, je suis allé en Asie, je suis allé autour
au Cambodge.
De l'Europe. Au Cambodge,
récemment.
Là j'y étais là. Et systématiquement, quelqu'un venait me faire signer un Avanti, me dire « Ah, mais vous n'avez pas joué Il Pueblo Unido de Jamás Será Vencido. Ah, mais vous n'avez pas joué le chant des partisans. » Et c'est finalement en rentrant au bureau que mon administratrice ici présente, qui s'appelle Océane, a dit...
On la salue, bonjour Océane.
A dit « Mais pourquoi tu ne réenregistres pas Avanti ? » Alors c'est un truc qu'on m'avait déjà dit il y a des années. Moi je dis « Mais non, mais arrêtez de me prendre la tête avec Avanti. » Enfin je ne sais pas, j'ai tellement de choses à faire. Pourquoi je devrais rejouer Avanti ? Mais là...
On est désolé de vous avoir invité.
Mais là je me suis dit « Mais au fait, non. Au fait, il va falloir que je me pacifie avec ce répertoire. Que je fasse vraiment le disque que j'avais envie de faire et que je n'ai pas fait il y a 25 ans. » Aussi, j'avais eu envie de faire un disque qui soit véritablement politique, parce que si j'ai quelque chose à reprocher à ma génération, c'est d'avoir vraiment fermé sa gueule. Je me rends compte souvent que je suis un peu le seul artiste de ma génération et de ma catégorie à avoir fait Avanti en 2001, Adelante, en 2011, où je suis quand même allé enregistrer le 1er mai à Cuba, l'international. Ouais, j'avais trop envie de faire ça. Et, et du coup...
C'est un marqueur aussi.
Je me suis dit, tu sais quoi, je veux faire ma, je veux faire ma Taylor Swift.
Et très bien.
Et du coup, j'ai repris Avanti, je l'ai mis sur le pupitre du piano, 2 jours au mois d'août, et j'ai réenregistré l'album, tel que je pouvais le faire avec 25 ans de piano solo dans les pattes.
Et sur le même répertoire. Presque le même répertoire. Je propose qu'on écoute, vous avez évoqué le chant des partisans, je propose qu'on on l'écoute. Et c'est toujours pareil, on hésite à parler hein, après cette musique. Hein, il faut laisser un peu le silence s'installer. Olivier, vous découvrez l'album.
Ouais, je trouve ça magnifique. Je dis pas ça par flagornerie. C'est vraiment magnifique. Et de toute façon, je suis un fan de Giovanni. Et ce que j'aime particulièrement, au-delà de son talent de musicien, c'est son son.
Oui.
Il a un son.
Absolument.
Que j'adore.
Je suis bien d'accord. Et puis, j'ai l'impression, c'est peut-être parce qu'on connaît ces chansons, ce sont des chansons, mais aussi que vous n'avez pas besoin d'un chanteur. En fait, vous faites chanter le piano. Mais justement, ça ramène à la question de savoir pourquoi ne pas avoir changé le format. Et vous me disiez un peu hors micro, mais ce serait bien que vous le redisiez pour nos auditrices et auditeurs. Vous avez besoin d'être seul avec votre piano.
Je devais... comment dire, refaire corps avec ces musiques qui en réalité sont les musiques de mon cœur.
C'est des chansons qui vous ont marqué, qui ont marqué votre conscience politique, bien sûr, mais musicale aussi.
Bien sûr. En fait, j'ai fait Avanti parce que je suis tombé sur un concert d'un groupe chilien dans un jardin public dans ma ville quand j'étais adolescent. C'était pas Quilapayún, c'était Intilimani. Mais même combat. Et ils ont chanté El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Et en fait, ils faisaient ce concert parce qu'ils partaient tout de suite après et retournaient au pays puisque la dictature était tombée. Et j'ai eu une telle claque émotionnelle que je me suis dit, quand je serai adulte, je vais jouer cette musique. C'est d'autant plus remarquable, si je peux me permettre aujourd'hui, avec quelques décennies de recul, que rien ne me destinait à être pianiste, en fait. Moi, je n'étais pas censé être pianiste. Donc,
vous destiniez à quoi ?
Non, je voulais faire de la musique, mais mes parents fermaient le piano à clé. Ils voulaient que je sois avocat. Vous avez
une famille de musiciens, quand même ?
Non, mon frère est clarinettiste, ouais. Il avait tous les droits. Moi, non.
D'accord.
Voilà. Et du coup, d'ailleurs, j'ai fait la première maquette d'El Pueblo Unido Jamás Será Vencido en 1987, c'est-à-dire que j'avais 17 ans. C'est un projet qui m'a accompagné toute ma vie. Et le jour où Philippe Guelmetti de Sketch m'a signé avec un disque en trio qui s'appelait Architecture, il m'a donné rendez-vous. Il m'a dit, écoute, toi, c'était le premier artiste jeune que je signe dans mon label. J'aimerais bien te faire un contrat d'artiste, donc un contrat sur plusieurs projets. Qu'est-ce que tu as d'autre à me proposer ? Moi, j'ai dit tout de suite, je veux faire un disque en solo sur des chants révolutionnaires. Et il a eu des étoiles dans les yeux et on s'est embarqué dans l'aventure Avanti. Mais du coup, effectivement, le morceau qui ouvre ce disque et qui ouvre l'autre disque aussi, c'est le début de l'histoire. J'avais déjà une conscience politique, j'avais déjà lu pas mal de bouquins en ces temps-là, mais cette musique, c'est-à-dire de pouvoir porter ce besoin de rassemblement autour de valeurs humanistes, qui est ce qui m'intéresse dans cette musique, et bien c'est arrivé ce jour-là avec cette chanson. Et ce que j'ai voulu faire en ces temps-là et que je fais aujourd'hui, c'est d'enlever le côté militaire, de garder, comment dire, le lien. Sans pour autant aller tuer des gens, enfin, on y viendra peut-être bientôt, mais pour l'instant, je joue encore du piano.
Oui, mais voilà. Ça contribue, je pense, aussi à l'éveil des consciences, par la musique notamment. Mais justement, il y a quelque chose, il y a 25 ans qui se sont passés, et en fait, il y a 25 ans, vous signiez, je crois, My Revolution.
Oui.
Et c'est devenu, on va l'écouter d'ailleurs, My Permanent Rebellion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec 25 ans après, non, c'est pas, oui, c'est pas
non,
le même morceau.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Que c'est quand même, voilà. Mais ça veut dire que 25 ans après, où on peut imaginer que vous êtes un musicien établi, un petit peu embourgeoisé, j'imagine, parce qu'on a nos âges, vous êtes toujours en rébellion permanente.
Je suis toujours aussi énervé que je l'étais quand j'étais jeune, et qui plus est, il faut bien dire un truc, c'est que par définition, aucune révolution ne peut s'arrêter. Le problème, c'est que faire tomber un système en place pour reconstruire un autre système, est toujours problématique. La révolution ne peut qu'être permanente, ce qui est d'ailleurs le problème des révolutions.
Absolument.
Ça ne peut exister que dans un disque de jazz. Mais voilà, moi c'est ce que je fais.
Mais est-ce que le fait d'avoir ressorti cet album aujourd'hui, c'est parce que on pourrait imaginer que c'est parce qu'il y a une urgence démocratique ou une urgence révolutionnaire. D'ailleurs, c'est pas la même chose, pas tout à fait la même chose.
Oui, ça, sans doute. Je pense que le moment est choisi parce que personnellement, j'ai besoin de l'ouvrir et que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vraiment fait. J'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire. Puis bon, on vit dans cette espèce de période. Et petite incise, l'autre jour, une chanteuse de Sanremo, le 25 avril, qui est le jour de la libération de l'Italie par les fascistes, j'y tiens à le spécifier, a préféré, en chantant Bella Ciao, remplacer le mot partigiano par essere umano. Mm. Parce qu'il s'est dit comme ça, ça inclut tout le monde, y compris les fascistes. Alors, elle ne l'a pas pensé comme ça. Elle a utilisé de cette naïveté mortelle d'Instagram. Tu vois ce que je veux dire, hein ? C'est plus inclusif. Mmh. Eh bien, tu vois, quand je vois ça, j'ai très envie de jouer Bella Ciao et dire non, c'est bien les partigiani qui ont libéré l'Italie.
Oui, absolument.
On ne va pas confondre. Il y a un moment, l'inclusivité, c'est bien cool. Mais il y a un moment, il faut choisir un peu son camp.
Absolument.
Tu vois ce que je veux dire ?
Absolument.
Bon, moi, mon camp me paraît clair.
Absolument.
Donc, ce disque, tu vois, est une prise de position claire. Après, certainement, à un moment donné, arriveront les haters qui vont dire « Oui, mais le communisme n'a pas marché. » Je sais. Je suis grave au courant. M'en fous. C'est pas grave. Il s'agit d'être... de résister. Ce qui m'intéresse, c'est la résistance. Il va falloir résister.
Absolument.
On ne peut pas inclure
absolument
tout.
Absolument.
On ne va pas jouer à cache-cache avec une panthère. Ça finit toujours, d'une certaine façon, pour la panthère.
Exactement.
Voilà.
Je propose qu'on écoute My Permanent Rebellion. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. On va en reparler. Mais on va passer My Permanent Rebellion.
Si avec vous, plaisir.
Qui, titre qui n'était pas dans Avanti.
Thank you. Bonsoir, c'est Alex Dutil dans Jazzland sur Aligre FM tous les derniers samedis du mois, 17h-18h. C'est l'heure du plaisir du jazz.
Et oui, Alex Dutil, c'est pour bientôt, dans 15 jours. Mais pour l'instant, nous sommes avec Giovanni Mirabassi pour la sortie de l'album Più Avanti sur le label Jazz Eleven. Merci beaucoup, Giovanni.
Le plaisir est pour moi, si tu veux encore m'inviter pour hurler dans ton micro à quel point...
Absolument, ouais, mais on pourra se parler sur une émission non musicale, tiens. C'est pas... Bah, vous me donnez une idée. Super. Est-ce qu'on peut annoncer une date de concert ?
Oui, on peut annoncer une date de concert. Je joue à Paris, au Bal Blomé, en collaboration avec Jazz Magazine, le 11 juin, ce répertoire.
Eh bien, très bien. Eh bien, on y sera.
Je vous y attends nombreux.
On y sera. Il va falloir qu'on résiste à l'envie de chanter sur votre...
Mais ne résistez pas. Faites ce que vous voulez.
Oui. Mais si, vous venez de dire qu'il fallait résister, justement.
Oui, mais enfin, voilà. Pas résister à chanter. Il y a d'autres résistances.
Merci beaucoup. En tout cas, Giovanni, vous restez avec nous parce qu'on va, on va parler d'une autre forme d'humanité.
Mais oui. Cette
humanité qui se lie entre des cultures musicales différentes. Olivier Huttmann, rebonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir pour la sortie.
Je suis ravi d'être là.
De l'album The Following, qui est un album en duo avec Lamine Sissoko, qui est une pure merveille. Et je vous propose tout de suite qu'on rentre dans, on aille se promener dans les rues de Dakar. D'accord ?
Bonne idée.
Streets of Dakar.
Thank you.
Et oui, vous êtes bien sur Jazzland à Ligre FM 93.1 en compagnie d'Olivier Huttman pour la sortie de The Following sur le label Frémo et Associés. Et là, on venait d'entendre Streets of Dakar. Alors avant de parler des difficultés techniques, puis de cette façon dont vous avez composé ce morceau, parce que là, on vient d'entendre Streets of Dakar qui est un de vos morceaux, de vos compositions. Là aussi, c'est l'envie d'y revenir puisque c'est la suite d'un album que vous aviez fait avec Lamine Sissoko, The Double Skyline. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir, de recommencer avec Lamine Sissoko? Vous n'aviez pas tout dit sur le premier album, vous aviez envie de vous retrouver? Comment ça s'est...
En fait, c'est un duo qui existe maintenant depuis 4 ans à peu près. Et puis, on a fait beaucoup de concerts. Lui, il vit en Scandinavie, il vit en Suède. On a beaucoup joué en Scandinavie, on a fait des festivals en France. Et puis j'ai un ami qui était label manager quand le premier disque est sorti à l'époque, c'était chez Crystal Records. J'étais label manager chez Crystal qui m'a dit vous devriez faire un autre disque et puis éventuellement inviter quelqu'un. Et puis à l'époque on bossait avec une agent qui voulait aussi qu'on fasse un autre disque. Il faut toujours avoir une actualité, toujours justifier un certain travail. Et ça nous a paru naturel. En plus, c'est une formule qui est facile à organiser.
À déplacer, donc, oui, c'est sûr que plus facile qu'un band.
Puis en duo, on se voit quand on a envie. Il vient régulièrement en France. Et puis comme je vais maintenant régulièrement en Suède, c'était facile de préparer ce disque. Muni de quelques idées comme ça, mais on a l'habitude de se proposer des thèmes l'un à l'autre et puis chacun essaye de trouver sa place.
Comment ça s'est fait cette rencontre à l'origine? Vous avez l'habitude, vous aviez l'habitude de jouer avec des grands jazzmen, vous avez joué avec les plus grands, Clifford Jordan, Frank West, Toots Thielemans, etc. J'en passe et des meilleurs. Et là, cette rencontre qui est un petit peu hors jazz tout en y restant, hors blues mais tout en y restant, on va y revenir. Comment s'est fait cette rencontre avec Lamine Sissoko et votre envie de jouer ensemble?
Mais oui, mais en fait c'est un petit peu le hasard. Il y avait, pour moi, à mon sens, il y avait une bonne chose dans la période affreuse pour les musiciens qui était le Covid, c'est que ça m'a permis de rencontrer Lamine. Out of the blue, un jour, j'ai reçu un message de Lamine qui était à la recherche d'une collaboration. Il collabore avec différentes personnes. Il aime bien se confronter à d'autres univers. C'est pas quelqu'un qui s'enferme dans une tradition. Il aime être un petit peu bousculé. Et il voulait trouver un collaborateur dans le milieu du jazz. Et il avait fait quelques recherches. Et puis, on a commencé à s'échanger de la musique. Et je lui ai dit... Ça m'intéresse beaucoup de travailler avec toi, mais d'abord, je ne suis pas musicien africain, même si j'ai beaucoup étudié la musique africaine dans une vie antérieure. Bah, en fait, j'ai fait un doctorat d'ethnologie avant de décider de faire que de la musique, mais je faisais déjà de la musique à l'époque. Et mon doctorat portait sur l'acculturation dans la musique africaine, en particulier au Ghana. Donc ça m'a toujours passionné, mais j'avais pris beaucoup de distance par rapport à ça. Et puis j'en écoute pas d'une manière régulière non plus. Ça m'a remis dans ce mood et on a commencé à s'échanger de la musique. Je lui dis que je voulais absolument pas ni prétendre faire de la musique africaine, ni être cadré comme ça. Et je lui dis je joue ce que j'ai envie, si ça te dérange pas. Et lui c'est ce qu'il voulait. Donc on a petit à petit monté un répertoire comme ça.
Alors c'est un répertoire où chacun amène ses compositions. Hein. Là on vient d'entendre une composition de vous, il y a des compositions de Lamine. Je propose qu'on écoute un deuxième morceau, Tamalalu.
Oui, avec plaisir.
Pour bien le prononcer, hein. Tamalalu. Allez. Thank you. Sur Jazzland à Ligre FM 93.1 en compagnie d'Olivier Huttman pour la sortie de The Following, album en duo avec Lamine Sissoko dont on venait d'entendre une composition Tamalalu. Moi la question que je me posais c'est de savoir, ça a l'air tellement évident de vous entendre jouer ensemble et en même temps, je ne sais pas ce qu'en pense Giovanni, mais est-ce que Giovanni vous avez déjà joué avec une cora?
Non, je n'ai jamais joué avec une cora.
Et ça me semble pas si évident que ça, en fait. Y a comment éviter les frottements? C'est pas comme jouer avec une guitare ou avec un violon. C'est pas pour un pianiste.
Non, c'est alors effectivement, c'est là qu'il y a un choc de culture, si j'ose dire. C'est que la cora n'est pas un instrument tempéré comme le piano, et puis c'est pas un instrument qui s'accorde de manière chromatique, même si Lamine a un instrument customisé, comme on dit, qui lui permet de passer d'un mode à l'autre. En fait, c'est un instrument qui joue sur des modes, qui s'accorde selon des modes, c'est-à-dire une sélection, un choix de notes. Donc il faut que on puisse jouer des choses ensemble, ce qui m'oblige, moi, davantage que lui, d'une certaine manière.
Mais ça vous contraint aussi en matière de composition? On a entendu juste avant Streets of Dakar.
C'est... Ah bah oui, c'est-à-dire que je ne peux pas composer des morceaux comme si je... de la même manière que je composerais pour une guitare, justement, ou un saxophone. Je suis obligé de prendre en compte les modes, mais... J'ai toute une panoplie de modes à ma disposition que Lamine utilise. Il y a même des modes qui sont un petit peu ses propres modes, où il enlève une note, ou plutôt il rajoute une note, éventuellement des secondes mineures, des choses qui permettent de changer complètement l'atmosphère de la musique. Donc la contrainte, c'est de composer en tenant compte de ça. Mais comme on ne se donne pas de contraintes, ni lui ni moi, dans l'improvisation, là, par contre, il n'y a plus aucune règle qui joue.
Et là, ça matche bien. Est-ce que vous le concevez un peu comme une conversation?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Une conversation, c'est tout à fait... Oui, c'est absolument une conversation. Une conversation, ça voudrait dire peut-être que... quelqu'un dit quelque chose et que la personne en face dit autre chose, alors que là, ça serait plutôt une écoute et puis essayer de prendre un petit peu de terrain et ensuite de lâcher prise et de permettre à l'autre musicien de prendre plus de place à son tour. Donc c'est un petit peu différent qu'une conversation, mais néanmoins, il faut aller l'un vers l'autre, parce que sinon il ne se passe rien. Mais je crois qu'à force de faire des concerts, et on a eu la chance d'en faire beaucoup, il y a une respiration qui s'installe, la place de l'espace est aussi extrêmement importante. Et puis je crois qu'on s'écoute beaucoup et on n'a pas de hier, j'espère en tout cas, c'est pas l'idée.
Je me tourne vers Giovanni Mirabassi. Comment vous venez d'entendre deux morceaux? Comment vous réagissez-vous à cette musique?
Ah, j'aime beaucoup cette musique. Déjà, ce que j'aime, c'est une certaine idée de la pulse qui est vraiment sympa et qui nous est très familière, je dirais. Parce qu'en fait, le jazz a des fortes composantes qui nous viennent directement du continent africain. D'ailleurs, c'est l'un des intérêts de la musique que nous jouons. Aussi, l'approche modale dont on parlait tout à l'heure, ça nous connaît, puisqu'on a bossé les modes toute notre vie. Quelque part, en réalité, c'est cette musique qui est construite sur des matériaux qui nous sont familiers, même si la construction en elle-même ne l'est pas forcément. En plus, moi, j'aime bien, justement, il y a un côté... Du coup, ça groove.
Mmh. Automatiquement. On a l'impression qu'il y a des percus.
Et puis l'agora,
comme s'il y avait des percus.
L'agora a un son magique. C'est un instrument que je connais peu, mais à chaque fois, je trouve. Il a des graves très beaux. Ça me fait vraiment penser à une sorte de violoncelle rock'n'roll. C'est très agréable, au fait, à écouter.
Et puis, il y a un son aussi absolument incroyable. Où est-ce que vous avez enregistré l'album aussi?
On a enregistré dans un studio où j'ai coutume d'aller faire tous les projets que je mène, aussi bien dans la musique de jazz que de la musique de film, des choses que je pratique pas mal. C'est un petit studio, mais qui a un excellent piano, qui a un C7 justement Yamaha, qui est le studio du Petit Pont, qui se trouve à Maurepas. Et je recommande à toutes les productions indépendantes, parce que c'est vraiment un endroit très agréable, avec 5 cabines indépendantes, dans un tout petit espace, où néanmoins on peut loger beaucoup de monde.
Et là, c'est un enregistrement, vous avez beaucoup de prises, ou c'est...
On a passé 2 jours en studio, on a préparé l'album chez moi, pendant 3 jours avant de rentrer en studio. Lamine est venue de Suède pour cet enregistrement. Mais il y avait 2-3 morceaux qu'on avait déjà expérimentés sans avoir donné la forme vraiment en concert. Et puis ça s'est fait d'une manière très simple. On s'est envoyé les morceaux et puis on s'est retrouvés. Et puis...
Là, c'est que des compositions originales pour cet album.
Il n'y a que des compositions originales, à part 2 morceaux qui ont été enregistrés en Suède, donc avec la participation de Eric Bibb.
Alors, on va en parler, oui. On va en reparler parce que oui, il y a vous disiez, vous avez composé chacun, puis il y a Eric Bibb, donc le célèbre bluesman qui a enregistré, enfin qui a composé et qui a prêté sa voix. On va en conclure d'ailleurs l'émission avec un morceau où on l'entend chanter. Le jazz, le blues, la musique mandingue, il y a un lien.
Ah bah oui, vraiment. Alors là, direct. Là. C'est-à-dire que quand Eric Bibb arrive dans le studio et qu'il joue du blues, il dit à Lamine, ok, alors ça va être tel mode, donc direct. Le blues étant aussi, par essence, une musique modale. C'est pas du blues bebop, hein, là. Ouais, c'est du blues bien
le blues du Delta,
bien gras, quoi. Ouais, voilà. Donc, et puis pour moi c'est quelque chose que je connais depuis que je fais du jazz, donc on se trouve un terrain d'entente immédiatement.
Et en plus c'est la démonstration aussi, mais on voit ce lien entre effectivement la musique que vous jouez et cette forme du blues. Effectivement vous la faites entendre même sans Eric Bibb, on l'entend déjà dans votre...
sensible à cette remarque, parce que le blues pour moi c'est pratiquement l'élément fondateur du jazz. Enfin c'est, s'il n'y a pas de blues, je m'ennuie, j'ai tendance un peu à m'ennuyer, ou en tout cas d'être frustré.
Et est-ce que vous, votre rapport à cette musique, à votre rencontre avec Lamine Sissoko, est-ce qu'on vous entend encore dans un contexte plus jazz traditionnel?
Vous
tournez pas le dos au jazz?
Non. Je travaille régulièrement avec des musiciens de jazz patentés, comme on dit. Je vais faire une tournée au mois de novembre avec Bill Pierce, qui est vraiment, c'est le maître étalon du musicien de jazz avec toute l'histoire du jazz. Après, je ferai aussi une tournée avec Ted Nash, qui est un saxophoniste ténor qui a joué longtemps dans le Lincoln Jazz Orchestra. Donc, bien sûr, je continue. J'ai fait ça toute ma vie. Je n'ai pas l'intention d'arrêter.
Puis, il faut dire pour les auditrices et auditeurs que vous êtes aussi programmateur d'un lieu formidable. On fait un peu de pub pour le lieu, qui s'appelle l'Écuge. Vous pouvez peut-être nous en dire 2 mots, d'ailleurs.
J'ai eu le plaisir de programmer Giovanni. C'était un concert magnifique. Et puis, je ne désespère pas de le reprogrammer.
Alors, l'ÉCUGE, c'est l'acronyme, auditeur.
Alors, l'ÉCUGE, c'est l'espace culturel et universitaire juif d'Europe.
Voilà,
c'est un lieu de culture, tout simplement.
C'est un lieu de culture.
Qui est dirigé par une personne qui s'appelle Gad Ibgui, qui m'a demandé un jour de faire de la programmation. Et je lui ai dit, ok, je veux bien, mais pas le truc juif.
Pas le klezmer tous les soirs.
Pas communautaire. Et puis, pas de directive, j'ai vraiment envie de faire jouer les gens que j'aime. Et il m'a dit, bah oui, c'était ça l'idée. Donc, c'est de s'ouvrir. Ça, on veut que ce lieu soit ouvert vers la cité et que tout le monde puisse y trouver sa part.
Ah oui, c'est une très très belle salle. Voilà, on vous flatte un peu.
Non, mais
la programmation,
vous flattez pas.
La programmation, la programmation. Bah si, vous faites la programmation.
Ouais,
et
bon,
c'est
une facile.
C'est là c'est la première fois que je crois que c'est chez vous que la première fois que j'ai entendu Mika Thomas, quoi, par exemple.
On a eu de la chance.
Par exemple,
on a eu de la chance qu'ils viennent jouer chez nous, effectivement. Puis il y a eu beaucoup de gens.
Il y en a eu d'autres. Et puis récemment, est-ce que vous venez de décerner cette semaine le prix René Urtrayer? Est-ce que c'est encore sous embargo ou est-ce qu'on peut l'annoncer?
Non, on peut l'annoncer, c'est déjà sur les réseaux.
Si c'est sur les réseaux, effectivement.
Bah,
ils
ouais,
sont presque sur les réseaux avant même qu'ils soient.
Que ferait-on sans les réseaux? Nous ne sommes rien. Donc on en a besoin, ça nous permet de faire parler de nous et de faire parler de ces jeunes musiciens. Donc le lauréat cette année, c'était il y a deux jours, c'est le groupe Chrome, K-R-O-M-E. Et je ne peux pas dire d'où ils viennent parce qu'ils viennent tous d'endroits différents. Je pense qu'ils se sont connus au CNSM ou au CRR. C'est tous de brillants musiciens. C'est une formation, un quartet avec vibraphone, piano, contrebasse, batterie.
Et puis vous avez de brillants journalistes dans le jury. Donc voilà, ils ont aussi des...
On a la chance d'être bien épaulés pour ça.
Moi, je n'en fais pas partie, mais... Mais ils sont très bien représentés.
Ça peut s'arranger.
Non, moi je sais très bien, moi je fais de la radio, moi je fais pas autre chose. Très bien. Est-ce qu'il y a des dates de concert à annoncer?
Ben, je vais jouer à l'Écuge le 25 juin avec une chanteuse franco-américaine qui s'appelle Steffi Haïk. Puis après ça, je ferai des concerts cet été avec notamment Anne Silla à l'extérieur dans des festivals. Et puis aussi un quintet avec Sylvain Boeuf.
J'ai découvert moi Anne Silla dans un concert de Laurent Epstein où elle remplaçait comme ça au pied levé.
Elle est incroyable.
Chouette personne, oui.
Ouais, vraiment. Puis après, je fais des concerts avec Sylvain Boeuf et Nicolas Folmer parce que c'est le 100e anniversaire de la naissance de Miles Davis. Donc,
j'ai entendu parler de
son hommage à Miles Davis. Et je voulais aussi signaler, si vous me permettez, que le 28 mai à l'Écuge, nous aurons la joie d'avoir une création qui est une confrontation entre la chanteuse Charlotte Planchou et le pianiste Andy Emler.
Ah, ça c'est intéressant. Alors, Andy Emler qui était ici la semaine dernière. Oui, et c'est intéressant parce que ils sont sur deux univers totalement différents, donc ça va être marrant, parce qu'on a l'habitude de l'entendre avec Marc Prior, donc là c'est complètement...
Oui, ça risque d'être explosif.
Complètement différent, mais
j'espère.
Je vous rassure, nous l'avions, Andy Emler l'avait annoncé la semaine dernière sur...
C'est bien, il a fait le job.
Il a fait le job. Olivier Huttmann, un grand merci. Donc
merci
on
beaucoup,
rappelle le titre de l'album The Following sur le label Frémo et Associés. Giovanni Mirabassi, un grand merci pour cette nouvelle version d'Avanti. Pio Avanti, comment le traduire? Comment vous traduiriez Pio Avanti?
Ça veut dire, ça veut dire plus loin.
Oui.
Ça veut dire plus tard. Pio Avanti con l'età, on dit. C'est plus tard, enfin plus en avant avec l'âge. Et ça veut dire aussi plus d'Avanti. Donc je trouve que c'est très très spécifiquement ce que ça devait raconter.
Quand j'ai écouté votre album Pio Avanti, Giovanni, j'ai trouvé que vous aviez la même jeunesse.
Et merci, je prends ça pour un compliment.
Un grand merci Giovanni. J'en profite pour remercier Armand à la technique. La semaine prochaine, ça sera un Jazzland enregistré parce que nous, on ira faire un reportage du côté de Jazz sous les pommiers. On a enregistré un Jazzland avec la programmatiste d'une autre salle qui s'appelle le 38 Rives, Elsa Viguier, qui nous parlera un petit peu de son parcours. Puis dans 15 jours, vous retrouverez Alex Dutille. Donc on va se quitter ben justement avec Eric Bibb, Floods of Water. Donc ça, c'est un morceau qu'il a écrit pour vous.
En fait, ce n'est pas un morceau qu'il a écrit pour nous, pardon.
Pardon, qu'il a amené.
Il l'a proposé parce que ça correspond bien à notre duo. Et puis, ça permettait à Lamine d'être complètement à l'aise du point de vue de l'accord de son instrument.
Eh bien, écoutez, c'est là où on va voir le lien avec le blues. Un grand merci, messieurs. Et donc, chers auditrices, auditeurs, on se retrouve dans une semaine. Et d'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. On se quitte avec Floods of Water. Ciao.
flood water spreading all around. Flood water spreading all around. People everywhere trying to make higher ground. Many met their maker in a watery grave. Many met their maker in a watery grave. If your neighbor had a boat, well, you might have been.
Allegre FM 93.1.